Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la conférence d'Alten sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020. Je m'appelle Val et je serai votre coordinatrice pour l'événement d'aujourd'hui. Veuillez noter que cette conférence est enregistrée. Pendant la durée de l'appel, vous serez uniquement en écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la présentation. Cela peut être fait en appuyant sur étoile 1 pour enregistrer votre question. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez appuyer sur étoile 0 et vous serez connecté à un opérateur. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Bruno Benoliel, directeur général adjoint. Vous commencez la conférence aujourd'hui. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie donc de participer à notre conférence qui concerne l'activité de l'année 2020. À la fin de l'année, la situation a peu évolué par rapport au troisième trimestre, comme je vous l'avais déjà laissé entendre lors du call du mois d'octobre. Beaucoup d'attentisme, une reprise molle et assez hétérogène. Les secteurs de l'auto et de l'aéro restent fortement impactés. Nous avions anticipé un recul organique de l'activité sur 2020 de 13%. Il a été de 12,9% grâce à un Q4 très légèrement meilleur qu'attendu. Donc au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe Alten s'est établi à 567,4 millions d'euros, en recul de 17,5% par rapport au quatrième trimestre 2019. Nous avions anticipé dans nos calculs 18,5, d'où le léger recul dont dont je vous parlais. Mais vous voyez que l'activité est quand même toujours en retrait net par rapport à l'année dernière. À données constantes, donc le recul est de 17,4%, moins 24,4% en France et moins 12,4% hors de France. Sur l'année complète, donc en full year 2020, le chiffre d'affaires est de 2,331,9 euros, en retrait de 11,1% par rapport à 2019. Il était de 2,624 millions d'euros. À données constantes, donc périmètre et taux de change, l'activité recule de 12,9%. Elle est donc en baisse de 19,5% en France et de 7,9% à l'international. Témoin de cette reprise très molle, le taux d'activité s'est redressé progressivement mais reste insuffisant, passant de 77% au Q2, 84% au Q3, à 86,4% au Q4, toujours bien en dessous du taux normatif de 92% d'Alten. En données cumulées sur l'année, il est de 84,6% en 2020, contre 92,1% en 2019. Le recours au chômage partiel s'est réduit comme conséquence de l'amélioration des taux d'activité. Il subsiste encore dans quelques pays d'Europe, dont majoritairement la France et l'Allemagne. Toutes zones géographiques confondues, l'effectif en chômage partiel, pour mémoire, était de 13% sur le deuxième trimestre 2020. Il a été ramené à 8% au troisième trimestre, en partie également du fait de la prise de congé, et à 5% au Q4. Bon, bien évidemment, il ne s'additionne pas au taux d'intercontrat, il est pris en compte comme tel dans les taux d'activité que je vous communique. Il fait donc pour nous intégralement partie de l'intercontrat, évidemment, puisque c'est une forme d'intercontrat subventionné. Les effectifs ont donc continué à décroître au cours du trimestre. Pour rappel, nous étions 37 200 à fin décembre 2019, 32 550 ingénieurs et consultants, et à fin décembre 2020, Alten compte 33 800 collaborateurs, dont 29 400 ingénieurs. Hors acquisition-cession, les effectifs ingénieurs se seraient élevés à 29 055 collaborateurs, soit une baisse organique de 3 495 personnes, 2017 en France et 1478 hors de France. Alors, par zone géographique, à la fin décembre, la situation est la suivante. La France reste pénalisée par l'auto et l'aéro. L'auto, qui représente 13% du chiffre d'affaires France, a décru de 35% au Q4, après un moins 40% sur Q3. L'aérospatiale, 21% du chiffre d'affaires France, a décru de 34% au Q4 après un pic, si j'ose dire, à moins 50 sur Q3. L'énergie grâce au nucléaire, le ferro, le naval, les sciences de la vie et les télécoms, au total, un peu plus de 40% du chiffre d'affaires, sont toujours en croissance. À l'international, aucun changement de tendance sur le Q4 par rapport au Q3, même si les évolutions par pays sont hétérogènes, comme vous le savez. Au total, l'activité recule de 7,9% en données cumulées annuelles, mais de 12,4% sur l'international au dernier trimestre, après un moins 14 au Q3 et un moins 11 au Q2. En Amérique du Nord, aux USA, 80% de la zone nord-américaine, les secteurs prépondérants que sont l'automobile, l'oil and gas et la finance tertiaire ont légèrement rebondi, d'où un moindre recul au dernier trimestre, moins 20 versus moins 25 au Q3. Le Canada a mieux résisté et croît de 13% en 2020 grâce au secteur tertiaire, plus 15, télécom, plus 25 et life science, plus 90. Tous les secteurs au Canada sont en croissance, à l'exception de l'aéronautique, évidemment. En Allemagne, pays où l'activité a le plus reculé au sein du groupe, la baisse organique atteint 24,5%, recul qui s'est très légèrement réduit au Q4, puisqu'il était de moins 30 versus moins 34 au Q3. L'activité n'a pas redémarré dans les secteurs auto-aéro, même si la décroissance du Q4 dans ces deux secteurs est plus faible qu'au Q3, mais elle reste quand même très significative, puisque dans l'auto, nous avons fait moins 30 en Allemagne au Q4, alors qu'on était on était sur des niveaux de repli supérieurs au Q3, l'auto qui est toujours à 45% du chiffre d'affaires. Quant à l'aéronautique, qui ne représente maintenant plus que 25% du CA allemand, pour mémoire, je vous rappelle les chiffres, on avait fait moins 40 au Q2, moins 60 au Q3 et on a à nouveau à moins 40 au Q4. Tous les autres secteurs, finance, tertiaire, énergie et life science, sont en croissance. En Scandinavie, à périmètre échange constant, l'activité recule de 19%. En Finlande, un petit quart de la Scandinavie, l'activité s'est améliorée sur le Q4, grâce à la reprise du secteur des biens d'équipement industriels qui sont prépondérants dans ce pays. En Suède, l'activité s'est stabilisée sur un recul de l'ordre de 28% à périmètre échange constant, du fait de la forte baisse du secteur automobile et poids lourds prépondérant dans l'activité suédoise, dont le recul au total sur l'année est de l'ordre de 40%. Au Benelux, l'activité a décru légèrement, mais en Belgique, elle a décru de 10% en se stabilisant au Q4, essentiellement du fait du secteur tertiaire, alors même que le secteur pharmaceutique a continué à progresser significativement. Aux Pays-Bas, l'activité a cru de 3% grâce aux comptes semi-conducteurs. Tous les autres secteurs significatifs sont également en croissance. En Espagne, maintenant, l'activité a reculé de 5%, mais s'est légèrement contractée au Q4 en raison de la succession de confinements. Les secteurs défense and space, automobile, aéro-civil sont en baisse, alors même que l'activité est en croissance sur tous les autres secteurs. Zone Asie-Pacifique, le périmètre a cru de 6,5%, mais s'est globalement stabilisé au Q4. La croissance est portée par l'Inde, où l'activité locale s'est développée. On a fait une croissance de l'ordre de 10%, notamment dans les secteurs de l'électronique, des semi-conducteurs et dans le secteur tertiaire. En Chine, qui représente 27 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'activité est en recul d'un peu moins de 10%, de 8% exactement, en raison des comptes auto qui représentent une part assez importante de l'activité chinoise. L'activité avait redémarré d'ailleurs dès le deuxième trimestre, a repris un peu plus vigoureusement au troisième trimestre, mais s'est stabilisé sur le quatrième trimestre. L'Italie fait figure de pays particulier au sein du paysage d'Alten en 2020, puisque l'Italie a continué à croître à deux chiffres, tout secteur confondu, à l'exception des télécoms, du fait de la décroissance d'un client en particulier, qui est Vodafone. Au UK, l'activité a recommencé à se redéployer au dernier trimestre, même si elle reste affectée par la forte baisse des comptes aéros, qui ont fait moins 35, et automobiles, qui ont fait moins 30, les deux représentant un peu moins de 40% du chiffre d'affaires du UK, à l'image de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les diversifications entreprises dans d'autres secteurs d'activité au UK ont progressé sensiblement. Si on analyse l'activité par secteur, je ne vais pas vous répéter que l'auto et l'aéro restent durement touchés par la crise. Tous les autres secteurs sont en décroissance plus ou moins marquée, à l'exception du ferroviaire, du naval, de l'énergie grâce au nucléaire et des sciences de la vie. Si on zoome en particulier secteur par secteur, assez rapidement, l'automobile, qui représente donc 17% du chiffre d'affaires aujourd'hui, est en recul de 30%, une amélioration séquentielle, moins 40 sur Q2, moins 36 sur Q3, moins 33 sur Q4. Chez les constructeurs, à l'exception de FCA, Ferrari et Toyota, tous les clients sont en recul, et chez les équipementiers, seul ZF est en croissance. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous n'anticipons pas de vrai redémarrage avant mi-2021. Au mieux. L'activité ferroviaire et l'activité navale, toujours en croissance de plus de 10%, tirée fortement par le naval, mais le ferroviaire atteint aussi à peu près 10%. Une activité qui avait ralenti évidemment au Q2, mais qui était repartie au Q3 et qui s'est accélérée au Q4, s'agissant de projets long terme. L'aérospace, 12% du chiffre d'affaires, a donc décru de 33%, avec un fort recul au Q2, amplifié au Q3, et un léger mieux au Q4. La visibilité reste quand même réduite, et pour nous, aucun redémarrage véritable de l'activité ne devrait intervenir avant 2022, voire 2023, sur le secteur aéronautique civil. Au sein du secteur aérospace, le sous-secteur du spatial, qui représente 2% du chiffre d'affaires, est moins touché. Il est en très très léger recul et devrait redémarrer plus tôt, on pense, courant 2021, au premier semestre, avec la reprise des lancements et l'augmentation des investissements chez Arianespace pour faire face à la concurrence des lanceurs de SpaceX. Les activités défense et sécurité, 5% de notre chiffre d'affaires, sont en recul de 7%, mais fortement impactés par le Q2 qui était à moins 14%. L'activité a redémarré au Q3 et a continué à progresser au Q4, une tendance qui devrait se poursuivre sur 2020, car les budgets n'ont pas été réduits. L'énergie, 12,3% du chiffre d'affaires d'Alten, en croissance de 4%. En termes de mix, néanmoins, l'oil and gas, qui représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires de l'énergie, est stable sur l'année, mais en recul sur la fin de l'année, impacté par les prix du brut. Le nucléaire croît toujours de façon très sensible, à plus de 10%, marché qui doit rester protégé normalement compte tenu de la diversité et de la nature des projets, projets qui sont pour l'essentiel des projets de long terme également. Quant aux équipements pour l'énergie, ils continuent à progresser de plus de 5%. Dans les sciences de la vie, 8,7% du CA Alten aujourd'hui. Le secteur globalement progresse de 7%, la pharmacie croît de 10% et celui des équipements médicaux est en croissance de 3%, une activité qui devrait continuer à croître forcément sur 2021. Les autres industries représentent un peu moins de 6% de notre chiffre d'affaires, un recul d'à peu près 10% sur l'année, principalement dans le secteur des biens d'équipement industriels, mais secteur qui revient progressivement à l'équilibre. Enfin, les télécoms, 7% de notre chiffre d'affaires, ont des croissances de 3% cette année, mais avec des évolutions par clients très hétérogènes. En fait, tous nos clients sont en croissance, à l'exception donc de Vodafone en Italie, comme je vous l'ai indiqué, d'Ericsson en Suède, mais ça devrait être conjoncturel, et d'SFR Altis en France, plus pour des raisons qui tiennent à la volonté de réinternaliser les prestations, mouvement qui a démarré d'ailleurs en 2019, et probablement qui s'accélérait cette année du fait de la crise. Je pense que l'activité dans les télécoms devrait reprendre de façon plus soutenue en 2021 du fait des migrations 5G attendues. Électronique multimédia, un secteur en recul de 13% qui a recommencé à croître légèrement au Q4. Quand je dis accroître, c'est de façon séquentielle, puisqu'évidemment, en 2D year on year, il est toujours en décroissance. Mais on est en décroissance de 20 points au Q3, on est en décroissance de 10 points au Q4. Ce sont les activités de conception et développement pour Amadeus, comme vous le savez, où Alten avait plusieurs centaines de consultants qui ont lourdement pesé sur l'activité, car les secteurs semi-conducteurs et électroniques ont continué à croître assez sensiblement cette année. Enfin, la finance tertiaire, 20% du chiffre d'affaires, fléchit légèrement du fait des activités retail et services, alors que le secteur bancaire, lui, croît de 5% en 2020. Voilà, donc que vous voyez, que l'on analyse l'activité par secteur, qu'on l'analyse par pays, globalement quand même, l'année est très fortement orientée à la baisse, avec deux secteurs dont la présence dans certains pays importante a contribué fortement à leur faire enregistrer des taux de décroissance significatifs. Mais globalement, les autres marchés résistent plutôt pas trop mal. Côté croissance externe et cession. Donc nous avons une année assez riche en acquisitions. En France et à l'international, enfin essentiellement à l'international, puisque nous avions réalisé 9 acquisitions cette année, acquisitions qui s'inscrivent pleinement dans la stratégie du groupe, qui, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, a pour objectif d'accélérer le développement international sur des marchés porteurs et ou d'atteindre la taille critique sur certains marchés. Et en France, renforcer la présence d'Alten sur les marchés de l'infra-cloud et de la cybersécurité et de la data science, qui sont des marchés porteurs pour les années à venir. Donc en synthèse, je vais vous reprendre la liste de nos acquisitions en vous indiquant le chiffre d'affaires 2020 des sociétés concernées. Je vais vous repréciser rapidement leur positionnement et je vais vous indiquer également à quelle date elle a été consolidée, puisque je sais que vous demandez cette information régulièrement. Donc, au début de l'année, nous avons donc acquis une société sino-japonaise, 380 consultants, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine de la sécurité IT et du software développement, consolidée à compter du 1er avril. Puis, un peu plus tard, une société coréenne, AP Solutions, une société de 200 consultants, également spécialisée dans le software développement, PLM, société de 200 consultants qui a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 millions d'euros et qui a été consolidée, celle-ci, beaucoup plus tard, le temps qu'on puisse la mettre en situation de produire les informations dans un format qui soit intégrable. Donc, elle a été consolidée au 1er octobre 2020. Aux États-Unis, avec un centre de delivery en Ukraine, une société qui fait du software développement, petite société, 110 consultants, 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, également consolidée au 1er octobre 2020. En Allemagne, nous avons acquis deux sociétés, les deux dans le conseil en ingénierie, majoritairement pour le secteur auto, mais des activités qui sont tournées vers les environnements soft embarqués. Environnement électronique. Une que nous avions déjà annoncée, de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 consultants, dans laquelle le groupe a pris 70% et que nous allons consolider au 1er janvier 2021. Une seconde que l'on a acquise fin 2020, cette fois-ci à 100%, qui est une société sur laquelle nous travaillons depuis assez longtemps, mais qui a fait des pertes importantes en 2019 et assez importantes également en 2020, qui s'est restructurée et que nous avons acquise en phase de restructuration finale. Donc une société qui va faire 24 millions d'euros de chiffre d'affaires normalement en 2021 pour le périmètre que nous reprenons et qui a 205 consultants forcément consolidés à compter du 1er janvier 2021. En Italie, une société pour laquelle nous avions fait un communiqué spécifique, SDG, spécialisé dans le business analytics et data science. Enfin, la maison mère est en Italie, mais en réalité, les activités sont également en Espagne et aux US. Une société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros cette année avec 885 consultants, que nous allons consolider au 1er janvier 21 également. Et une autre, dans les infra-IT et dans la data science, que nous avons acquise à cheval sur fin décembre et début janvier, 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 consultants consolidés dès début janvier 21 également. En France, une société positionnée également dans le secteur des infra-IT, qui adresse majoritairement le secteur banque-assurance, société qui a 180 consultants, mais un peu plus de 100 externes, et dont le chiffre d'affaires prévisionnel 21 est de 32 millions d'euros. Enfin, au Portugal, toujours sur les métiers de l'infra-IT et de la data science, une société qui adresse le marché local, mais qui pourrait également être une plateforme de nearshore pour les clients européens, société qui en 2020 va réaliser ou a réalisé, enfin les comptes ne sont pas définitivement arrêtés de cette société, 27 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 400 consultants et que nous allons consolider également au 1er janvier 21. Donc au total, Alten aura acquis en 2020 près de 3000 personnes pour 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est également désengagé de quelques sociétés, ce qui nous arrive assez peu souvent, parce qu'en règle générale, on acquiert mais on ne vend pas. Mais là, on a décidé de se désengager de trois petites sociétés non stratégiques, une en Chine dans l'automobile, essentiellement positionnée sur des métiers type mécanique, par exemple, ou design. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 154 consultants au moment où on l'a cédé. On l'a déconsolidé à compter du 1er avril. Une société en France dans les télécoms, dont je vous avais parlé la dernière fois, dont le chiffre d'affaires était de 16 millions d'euros et qui a compté 264 consultants, qu'on a déconsolidé à compter du 1er septembre. Et on a cédé en fin d'année une société en France qui fait du process manufacturing, une petite société qui n'arrivait pas à décoller, qui comptait 60 consultants et qu'on va donc déconsolider au 31 décembre de cette année. Voilà, donc le chiffre d'affaires pour les sociétés que nous avons cédées en 2020 et qui sont consolidées dans les comptes 2020 est de 18,5 millions d'euros. Donc, pour ceux qui feront des calculs de croissance organique prospective, le chiffre d'affaires 2020 de référence à périmètre constant qu'il faut considérer sera donc de 2 milliards 313,4 euros. 2021. Une reprise qui sera donc lente dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, même si, comme je vous l'ai indiqué, on pense que l'automobile recommencera à croître au second semestre, avec une part plus importante de l'X-Shore, les industriels cherchant à réduire leurs coûts d'ingénierie, à l'instar de Renault ou de ce qu'a fait PSA, mais dans un contexte où les mutations technologiques, comme vous le savez, et donc les investissements sont inéluctables. Certains secteurs comme le ferroviaire, le naval, le spatial, la défense, le nucléaire, la pharmacie par exemple, moins impactés, vont recommencer à croître ou poursuivre leur croissance en 2021. Cela dit, la visibilité reste réduite et même si les bases de comparaison vont peu à peu intégrer la forte baisse de 2020, le calendrier de la reprise sera celui de la crise sanitaire. Ainsi, le premier trimestre 2021 devrait être stable par rapport au dernier trimestre 2020, donc en fort recul organique par rapport au Q1 2020, plus haut historique du groupe en fait, et le gap va progressivement se combler sur Q2 pour être nul sur S2, pour autant que l'activité reste stable par rapport à notre niveau d'activité de Q4. On espère évidemment qu'il y aura une reprise qui interviendra tôt ou tard cette année. Notre scénario, c'est quand même que la reprise n'interviendra pas avant S2 2021, et il est donc trop tôt pour anticiper précisément le timing du retour à la croissance organique. La décroissance embarquée est de 5% cette année, avec une saisonnalité forte, schématiquement moins 10 sur S1 et 0 sur S2. Et les acquisitions réalisées sur 2020 et 2021 vont donc partiellement venir combler cette perte d'activité enregistrée en 2020 et donc embarquée pour 2021. Voilà, j'espère avoir été assez synthétique dans la présentation de l'activité et les perspectives. Je me doute que vous devez avoir quelques questions complémentaires. Donc, madame, si vous voulez bien demander aux participants qui le souhaitent de poser leurs questions.
Bien sûr, merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. S'il vous plaît, assurez-vous que votre ligne ne soit pas en mode silence. Je vais vous avertir quand vous pouvez poser votre question. Encore une fois, c'est étoile 1. Merci. On a une première participant. La première question vient de la ligne du monsieur Alexandre Plotz de CM Six Securities. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour Bruno.
Bonjour.
Une petite question, c'est simplement pour comprendre. Donc, un effet de décroissance organique embarqué sur 2021, donc tu as dit de moins 5%, et donc un effet des acquisitions qui compensent. Mais de ce que je comprends, c'est combien il faut comprendre de compensation dans, déjà sur la base d'effets périmètres à venir.
Bon, je vous ai donné les chiffres. En fait, ça compensera. La décroissance embarquée, elle est à peu près de 5%, ce qui fait que si on applique ce chiffre au chiffre d'affaires 2020 retraité des cessions, on est sur un chiffre d'affaires qui est légèrement inférieur à 2,2 milliards. Voilà. Et dans les acquisitions que je vous ai communiquées, je vous ai donné les chiffres d'affaires et les dates de conso. Donc ensuite, il faut tenir compte du fait que certaines ont été partiellement consolidées sur 2020. Pour essayer d'en tirer un chiffre d'affaires prospectif 2021. Ça compensera pas la totalité de la décroissance.
Ah ok, d'accord, non, voilà, c'était ça ma question, parce que j'avais cru comprendre que...
Ça va encombler une partie, mais pas complètement, puisqu'il y a une partie qui sont déjà consolidées sur 2020, oui.
Okay, non,
je suis désolé si j'ai pas été clair. 200...
Non, c'est sûrement moi qui ai mal compris sur les 240 millions d'effets périmètres et je ne retrouvais pas combien ça pouvait compenser. Ok, et ensuite j'avais une question, je n'avais pas saisi sur la sur l'aspect, donc sur le camembert sectoriel que tu présentes à chaque fois, sur l'aspect service IT, la croissance pardon affichée sur 2020, je ne l'ai pas entendu.
Ah, sur la partie, sur la partie finance tertiaire, donc toutes les données que je vous communique, évidemment, sur les secteurs, c'est à périmètre constant parce que sinon, les acquisitions peuvent amener à des conclusions qui ne sont pas les bonnes, évidemment. Donc, ça baisse de 4%, okay. essentiellement, du fait des activités retail et services. L'assurance est stable et le secteur bancaire a fait plus 5.
Ah, ok. Ok, parfait. C'est clair. Merci beaucoup.
Merci. Pour l'instant, il n'y a plus de questions de la file d'attente. Je voudrais rappeler les participants que vous pouvez utiliser votre clavier en appuyant sur étoile 1 pour enregistrer votre question. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Ça vient de la ligne de Monsieur Derek Marcon de Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Salut Bruno, d'abord un meilleur vœu pour cette année.
Bonjour Derek, bonne année.
Ouais, nous sommes
encore le 29.
Voilà, bon, on aurait espéré que le début soit un peu moins rythmé par les annonces sur le Covid, mais une bonne année quand même, une bonne santé surtout. J'avais trois questions. La première, c'est sur le volume de chômage partiel. Comment tu vois un peu les choses? Parce que est-ce que tu penses que à fin février, le mécanisme va s'arrêter et en tout cas devenir beaucoup moins généreux pour les entreprises qui continuent à faire du chômage partiel? Et quid, si c'est le cas, comment tu comptes traiter le stock, entre guillemets, de chômage partiel qui te reste à fin décembre, les fameux 5% que tu mentionnais? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur le calcul de croissance embarquée sur le S2, donc flat. Si grosso modo, ton S2 est comparable au Q4 2020, donc ça veut dire qu'en fait, tu as repris... en séquentiel, sur le volume facturé de consultants, une progression au Q4 versus le Q3. Et Voilà, c'est parce que c'est vrai que le staff hiring, à partir du moment où tu fais sortir des gens qui sont non productifs sur le bench, et plus très relevant, est-ce que tu peux donner peut-être le nombre de TP facturés Q4 versus Q3, et est-ce qu'il y a une progression ces concepts? Je suppose que oui, il y a les deux effets qui ont cumulé et que c'est pour ça aussi que tu vois le taux d'utilisation monter. Voilà, et puis si tu peux donner le niveau de staff hiring du Q4 only, ça serait bien.
Enfin, donc, Q4
only. Ouais. Parce que je crois que tu l'as donné sur l'année, les 3000.
Ouais, je l'ai donné sur l'année.
Bon, 3495, ça c'est sur l'année, avec 2017 en fonds, c'est 4478, moins 1478 à l'international, mais c'est pas des chiffres du cap.
Bon, alors, ok. On peut peut-être commencer par la dernière question. Donc, sur Q4, on a un net staff. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt du moins, c'est moins 704 personnes. Donc là, on est uniquement sur de l'organique. Hein. Je tiens évidemment pas compte des sorties de périmètre des sessions. Donc, moins 704 et le split, pour être précis, c'est moins 556 sur la France. Et moins 148 sur l'international.
Alors sur mon pied de question, du coup, l'autre, c'était sur l'effectif facturé.
Oui, alors celui-là, on l'a jamais communiqué dans le détail, mais grosso modo, ce qu'on peut dire entre Q4 et Q3, c'est que on a augmenté notre effectif facturable d'à peu près 2%, entre 2 et 2,5%.
Et c'est ça qui valide le croissance embarquée flat au S2 si ton nombre de staff, enfin si tu en gros es sur
c'est
les
ça.
Mêmes
que au voilà. Voilà. Alors après, évidemment, il y a des incidences qu'on ne peut pas toutes modéliser sur les tarifs, sur les taux d'activité, parce que avec des taux d'activité qui swingent autant, forcément, on a pris donc comme hypothèse aussi qu'on facturait plus, parce que c'est on a facturé plus, mais qu'on l'amélioration de la facturation, pour dire les choses de façon plus claire. C'est pas lié au recrutement, c'est directement lié à l'amélioration du taux d'activité. Donc on a pris comme hypothèse que le taux d'activité restait flat. Donc, puisqu'on raisonne en embarqué, c'est vraiment un exercice théorique.
Le taux d'activité, forcément, Bruno, si tu épuises ton stock, si tu écoules ton stock de...
Plus exactement, on a pris comme hypothèse que si on prend le même nombre de people avec le même taux d'activité, par voie de conséquence, et un volume équivalent d'externes, qui eux forcément n'ont pas d'intercontrat, le volume de chiffre d'affaires, donc de projets facturés, on va considérer, puisqu'on raisonne en embarqué, qui restait flat. Parce que si mécaniquement on continue à baisser les effectifs, par voie de conséquence, l'intercontrat va se réduire si on réduit les effectifs sur les intercontrats, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Il y a des gens qui démissionnent mais qui sont en projet et on ne peut pas nécessairement immédiatement substituer. Auquel cas, effectivement, on va avoir un effet de relution sur le taux d'activité qui, lui, n'aura pas d'incidence sur le niveau de facturation.
Bien d'accord.
Et ensuite, la question, c'était sur le chômage partiel. Alors, le chômage partiel, on a pris les hypothèses qui, aujourd'hui, sont dans nos prévisions, même si on n'a pas finalisé, parce que je suis en train de les revoir, les budgets updatés, c'est que, en théorie, on devait avoir une fin, en France, hein, je parle, une fin de la période de chômage partiel pour les gens qui n'ont pas choisi la PLD à fin août. Ce qui voulait dire que...
Ah non, 2021.
21, oui, forcément. Parce qu'en fait, on va sortir... on doit sortir, mais ça fait déjà 6 mois qu'on doit sortir du système d'indemnisation du chômage partiel dérogatoire qui dure depuis 1 an, qui consiste à percevoir en France une indemnisation de 60% du brut. En sachant que nous, on doit compléter, parce qu'on a une convention collective qui est mieux disante. Bon. Le jour où ce système s'arrête, on revient dans un système en France qui est le système de droit commun, si je puis dire, qui fait que schématiquement, indemnisé, on a plus l'habitude d'être imposé qu'indemnisé en France, à 36% du brut. Et donc ça dure 6 mois. Aujourd'hui, l'hypothèse, c'est que jusqu'à fin février, on continue à bénéficier d'une indemnisation juste de 60%, et qu'en mars, on passerait à 36%. Ça, c'est pour la France.
Le 36%, c'est pas le reste à charge, en fait.
Non, le reste à charge, il explose, lui. Forcément. Donc, après, il y a un calcul à faire, et il y a des hypothèses à prendre, qui sont fonction des perspectives opérationnelles, donc de reprise d'activité, ou de reclassement, ou de transfert de compétences sur d'autres secteurs ou d'autres projets. L'attrition qui continue, malgré tout. Et donc, voir si les courbes, à un moment donné, peuvent converger, c'est-à-dire si, quand bien même le chômage partiel viendrait à moins subventionner le PNL et finira par s'éteindre à un moment donné, on arrivera à ce moment-là à un point de convergence avec un niveau d'intercontrat, on va dire, gérable et acceptable. Pour l'instant, ça décroît doucement, mais ça décroît. L'autre possibilité, c'est de faire un plan social qui toucherait quelques centaines de personnes. Le problème, c'est qu'elles sont quand même très concentrées, comme vous savez, aux endroits où les industries aéronautiques sont très très fortement implantées. Ça coûte cher, comme vous savez aussi, puisque vous savez qu'il y a des concurrents qui le sont en train d'en mettre en place. Ça dure longtemps, le ROI est d'un an. Ça désorganise en partie l'entreprise. C'est socialement, c'est quand même la dernière, c'est la dernière décision à prendre quand on ne peut pas en prendre d'autres. Donc pour l'instant, notre hypothèse, c'est qu'on finira par faire converger la courbe de l'intercontrat avec celle de la fin du chômage partiel. En sachant aussi, mais ça pour l'instant on ne l'a pas pris en compte, que je ne sais pas si vous avez écouté Elisabeth Borne hier matin ou avant-hier matin, elle a clairement contredit le ministre des Comptes publics en expliquant que le chômage partiel, dans les modalités du quoi qu'il en coûte, continuerait aussi longtemps que nécessaire. Donc il n'est pas impossible, il est même très fortement probable que ce chômage partiel indemnisé à 60%, qui aurait dû s'arrêter en théorie en septembre l'année dernière, et qui est reporté de mois en mois, perdure sur une bonne partie de l'année 21. Ouais. Et quant à l'Allemagne, alors en Allemagne, on va faire un tout petit plan social, mais vraiment tout petit, moins de 100 personnes, à Hambourg, et on va, pour le reste, c'est-à-dire Munich, la région au sud, et pour le reste des intercontrats d'Hambourg, on va pour l'instant fonctionner avec le chômage partiel allemand, qui est très généreux, avec un reste à charge qui est de l'ordre de 15%, 20 maximum, selon les cas de figure, et qui va durer pour sûr jusqu'en fin 21 et probablement aussi une partie de 2022.
T'as pas envie, la troisième option, le chômage partiel longue durée, c'est pas une option? En fait, tu l'as pas mentionné comme...
Non, pas. Évidemment, on l'a regardé, mais pour nous, ce n'est pas forcément une bonne façon de fonctionner, parce que ça suppose un engagement sur 2 ans, ça suppose de ne pas pouvoir, si nécessaire, procéder à des licenciements. Donc, bon, enfin, pour l'instant, la visibilité, elle est ce qu'elle est. Et puis surtout, il faut pouvoir donner de l'activité sur une période de 2 ans, à 60, enfin, une période d'activité de 60% à tous les collaborateurs. Donc c'est plutôt conçu pour des activités industrielles où on peut faire tourner des gens sur des postes, mais nous on peut pas sur des projets mettre quelqu'un à 60% et 40% en chômage partiel, c'est pas possible. Ça peut pas fonctionner comme ça.
Très clair. Et si je peux rajouter une petite question, c'est sur la décélération de l'international au Q4, c'est des effets de base, il y a des choses...
Oui, c'est des effets de base. Ouais. Parce que si on prend, je vous ai mis en annexe l'évolution du chiffre d'affaires, des taux de croissance organique quarter par quarter, parce qu'en fait, c'est plus parlant qu'en données cumulées, évidemment, et quand on compare Q3 et Q4, alors même que Q4 était mieux, plus fort que Q3, donc on aurait dû avoir un effet de base défavorable qui aurait dû amplifier peut-être la comparaison négativement, vous allez voir que partout, le taux de décroissance est meilleur en Q4 qu'il ne l'est en Q3. À l'exception de l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est parce qu'ils ont été, reconfinés. Et de la Suisse. Oui, pardon.
Tu as dit Q1 2021 égale Q4 2020, tu parlais en valeur absolue en fait.
En nombre de projets.
Mais ça veut dire que c'est pas un peu le même raisonnement que Q3 2020, Q4 2020, c'est-à-dire que tu as une hausse quand même du nombre de gens que tu factures, parce que ton Q1, traditionnellement ou historiquement, il a toujours été un peu plus faible que le quatrième trimestre, qui est un trimestre assez fort pour...
Mais c'est pour ça que je raisonne, en nombre de projets facturés. En nombre de personnes facturées. Après, il y a un effet, évidemment, jour ouvré parce qu'on n'a pas exactement le même nombre de jours, congés payés parce qu'il n'y a pas le même nombre de congés payés, mais si on regarde séquentiellement le nombre de projets, habituellement, au premier trimestre, et fin décembre, il y a beaucoup d'arrêts de projets qui font, d'ailleurs comme à fin juin, mais qui font une marche d'escalier assez forte. Et en règle générale, on récupère au mieux mi-février, mais en général, c'est plutôt fin février. Cette année, cette marche d'escalier a été moindre. Parce que de toute façon, les projets qui s'étaient déjà arrêtés, donc ceux qui continuaient ont continué. Et sur fin janvier, nombre de projets facturés, on a recommencé à progresser. Donc on a pris pour hypothèse qu'on devrait en avoir autant sur Q1 que sur Q4. Maintenant, ça va faire un fort taux de décroissance organique sur Q1.
Si à fin janvier, tu es déjà square, il y a de fortes chances quand même que tu fasses mieux que ça, non?
J'ai dit on en a récupéré certains, on n'est pas square encore.
Ah bon, j'avais compris, à fin janvier, c'est déjà... Ok, merci beaucoup Bruno.
Bon, je t'en prie Derek, bonne soirée, merci.
Merci. La prochaine question vient de la ligne du monsieur Stéphane Slowinski from Exane BNP. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour Bruno.
Bonjour.
J'avais 2 questions. Donc la première, c'était sur la stratégie d'acquisition. Donc vous avez fait 9 en 2020. Est-ce qu'on peut attendre 2021 le même montant au niveau nombre d'acquisitions ou nombre de personnes ou du chiffre d'affaires, ou est-ce que vous pensez que il y a peut-être même une potentielle d'accélération par rapport à ce que vous avez fait en 2020? Et avec cela, sur la stratégie offshore, je pense que la plupart des acquisitions, ça reste onshore, pour l'évolution de l'offshore. Est-ce que vous pensez faire de l'acquisition aussi, ou est-ce que ça sera plutôt en organique?
Alors, on a fait beaucoup d'acquisitions cette année, enfin en 2020, mais on a dans le pipe, en ce moment, beaucoup de sociétés qui sont en phase de due deal ou en phase de négociation et de discussion en vue de signer des LOI. Donc un volume qui est quand même assez significatif, qui ne débouchera pas nécessairement tout le temps sur des acquisitions, mais on pourrait imaginer, en tout cas en début d'année, hein, au vu du nombre de sociétés qui sont en cours d'analyse, qu'on puisse en 2021 acquérir à peu près autant de sociétés qu'en 2020. Enfin, après, ça dépend en termes de chiffre d'affaires et de personnes. Enfin, on ne peut pas tellement présumer ou préjuger parce que il y a des sociétés qui font 30 consultants mais qui sont intéressantes pour compléter une petite activité quelque part, et puis on a des sociétés qui peuvent dépasser les 1000 personnes. Et là, à ce stade, on ne peut pas dire quelles sont les chances de succès de l'une ou de l'autre, puisqu'on est vraiment en début de processus. Soit de négociation de la LOI, soit au tout début du processus de due diligence. Alors ensuite, en termes de stratégie, on a des sociétés aussi bien en France qu'à l'international, et à l'international, effectivement, en phase d'étude, il y a des sociétés qui sont sur des marchés offshore, notamment Chine et Inde.
Ok, merci. Et puis,
évidemment, c'est des sociétés qu'on analyse et qu'on regarde, mais s'il devait y avoir une augmentation et une accélération de la demande en offshore, pour faire face à la demande de certains clients, je pense par exemple à Renault, on n'a aucune difficulté à faire monter en puissance nos delivery centers qui sont en Inde ou au Maroc ou en Roumanie même. On a des structures de recrutement sur place, on a plusieurs centaines voire milliers de personnes, ce serait pas une difficulté majeure.
Une accélération qui est en cours aujourd'hui particulièrement.
Pardon?
C'est pas quelque chose qui est en cours aujourd'hui, une accélération des effectifs au Maroc ou au nearshore ou offshore en organique?
Non, pas pour l'instant, non.
D'accord. Et juste une question sur le lockdown qu'on voit aujourd'hui en Europe et ailleurs. J'imagine que vous avez beaucoup de secteurs qui restent porteurs et il y a toujours une bonne croissance, que c'est pas ça qui fait vraiment toujours freiner, bien sûr, les autos, les aéros. Et donc, c'est plutôt lié au marché. Et donc, si jamais on voyait une amélioration de la situation sanitaire au niveau lockdown, c'est pas ça vraiment qui va mener à le redémarrage des projets en eux-mêmes.
Bon, pas dans. En fait, les lockdowns, ça n'a pas d'incidence aujourd'hui particulière sur le redémarrage ou pas de l'activité auto ou aéro, parce que c'est vraiment une problématique liée au budget d'investissement.
Oui.
Et donc à leur propre gestion de leur coût de la R&D. En revanche, on peut continuer à travailler sur les projets en cours maintenant en télétravail de façon assez, on va dire, efficace, puisque les gens ont pris l'habitude. La conséquence que ça a, et c'est pour ça que ça génère toujours un ralentissement d'activité, c'est pas pour des questions d'organisation de logistique, c'est que ça a une incidence sur l'activité commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, pour des projets de taille importante ou complexe, ou même pour des projets plus modestes, les réunions commerciales, la prospection, la présentation des offres, les réponses aux appels d'offres, les soutenances, etc.,
elles peuvent se faire hein, par Teams ou d'autres outils de vidéoconférence, mais ce qu'on constate quand même, c'est que c'est plus compliqué, qu'on du coup ça fait baisser le nombre de bids qu'on reçoit et ça a une incidence sur le business.
D'accord. Ok, et juste une dernière question, peut-être plus directement sur la marge opérationnelle. Tu as mentionné que le T4 était un petit peu mieux que prévu au début. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur la marge sur la H2? Est-ce que tu es content avec le consensus que tu es aujourd'hui ou avec ce que tu as déjà dit dans le passé? C'est une indication sur la rentabilité au H2.
On a dit que la rentabilité au H2, enfin, je crois que j'avais dit ça la dernière fois, elle serait meilleure qu'attendue, et je peux le confirmer, oui.
Okay. Merci Bruno.
Je t'en prie.
Merci. La prochaine question vient de la ligne du monsieur Laurent Dor de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Ah oui, merci. Bonsoir Bruno. Je voulais tout d'abord revenir un peu sur les points d'Eric et sur les aides d'État. Déjà, pour avoir une précision, les 36%, c'est tout secteur confondu ou il y aura une différence entre auto et rouge, le reste?
Non, c'est tout secteur confondu.
D'accord, il n'y aura aucune distinction entre les secteurs qui restent sinistrés et d'autres plus simples?
Non, en fait, non, ça s'adresse vraiment à l'ensemble des entreprises qui sont en situation de sous-activité du fait de la crise. Après, il y a des dispositifs spécifiques qui sont mis en place pour des secteurs particuliers, comme l'auto, l'aéro, etc., dans lesquels nous, on ne rentre pas de toute façon.
D'accord. Donc, oui. Et, okay, ça c'est clair. Après, je disais que tu avais 5% encore, donc c'est à peu près 1500 personnes.
Ouais.
Départ naturel sur cet effectif, on doit tabler sur quel rythme mensuel, grosso modo, pour qu'on essaie de faire une prévision fin de semestre.
Bah, si je le savais...
Non, mais sur les 2-3 derniers mois, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, il y a des mois où on peut perdre 100 ou 150 intercontrats. Il y a des mois, c'est un peu plus. Il y a des mois, c'est moins de 100.
D'accord, mais si on prend un rythme trimestriel, c'est 300-400 personnes.
C'est on va dire 300 personnes.
Alors tu fais 600 plus ton plan de 100 personnes, donc ça fait 700. Ce qui fait, en gros, tu as 800 personnes à réaffecter et à mettre en formation, c'est ça l'idée?
On l'a pas exprimé comme ça, parce qu'en fait, dans les faits, c'est piloté à la semaine, en fonction des opportunités, etc. Mais l'idée, effectivement, c'est que il y ait à peu près 800 000 personnes qui continuent à partir, et puis qu'on arrive à réaffecter les autres consultants. Et où, et ça fait aussi partie de la réflexion, c'est d'accepter, pour un moment donné, d'avoir, à certains endroits, un taux d'intercontrat plus élevé que ce qu'on a habituellement et que ce qu'on accepte habituellement, en se disant que de toute façon, le temps qu'on mette en place une stratégie différente, de toute façon, c'est tellement long et tellement coûteux qu'on n'a pas intérêt et que finalement, l'activité sera repartie dans l'intervalle.
D'accord. C'est clair.
Je sais pas si tu as vu le coût des Alors ensuite, on peut pas préjuger d'une chose, c'est que excuse-moi pour l'expression qui est pas très heureuse, mais à un moment donné on va tomber sur ce qu'on a le fond de cuve, c'est-à-dire que ça on ne sait pas quand. C'est-à-dire qu'à un moment aujourd'hui les gens un ingénieur qui a une bonne formation et voilà et qui arrive à trouver du travail, il part parce que après 2-3 mois de chômage partiel, c'est pas son objectif de rester payé à rien faire. Donc la plupart des gens sont dans une dynamique de chercher ailleurs. De façon assez surprenante quand même, on a eu pas mal de démissions sur Toulouse cette année, alors qu'on pensait que ce serait quand même assez compliqué, parce que le tissu local est bien
bien sinistrés dans l'aéronautique, mais en fait, on s'aperçoit que les gens finalement soit quittent la région, soit vont dans d'autres secteurs, soit ont trouvé dans des boîtes plus petites. Enfin bon, on a un peu tous les cas de figure. Ce qu'on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de modélisation aussi précise, c'est qu'à un moment donné, parmi tous les gens qui sont dans l'intercontrat, il y a des gens qui doivent être en train de chercher et qui ne trouvent pas. Donc il va arriver un moment où le système peut se gripper. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, complètement.
Voilà. Et donc ça, on ne sait pas quand. Si ça doit arriver, voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un pilotage avec des reportings à la semaine sur le sujet.
Ok. Sinon, quand tu commentais sur le nombre de projets facturés actuellement, qui est en légère amélioration depuis le début de l'année, on parle bien en organique. T'as rebasé. C'est-à-dire, mais en gros, ça veut dire que tu nous guides sur un T1 en décroissance organique à deux chiffres, mais en amélioration quand même sensible par rapport au T4. J'ai bien compris.
Ah bah oui, hein? À deux chiffres, un large deux chiffres. Hein.
D'accord. Et dernière question, un point de vue plus général. Est-ce que sur d'autres secteurs que l'auto-aéro, la pression qu'il y a dans le secteur, est-ce qu'il y a des clients qui en ce début d'année sont servis pour essayer de faire baisser les prix plus que d'habitude?
Bah, pas vrai. Non, pas dans l'auto-aéro. Il y a même des appels d'offres ou des référencements qui ont été décalés parce que et qui auraient dû intervenir et qui ne sont pas intervenus parce que tout le monde a autre chose à faire. En revanche, on a eu des demandes de baisse de tarifs. On ne peut pas en faire une généralité parce qu'on ne peut pas parler de secteur, mais il y a des clients du secteur bancaire qui ont demandé des baisses de tarifs banque-assurance assez significatives. Qui les ont demandées, hein. Ça veut dire qu'ils les ont obtenues, mais qui les ont demandées.
Et donc, si on oublie l'intercontrat, entre ton salaire moyen et ton prix moyen, est-ce que tu as un risque que tu sois un peu squeezé ou ça va se gérer tranquillement?
Non, ça va se gérer tranquillement. Ça va se gérer tranquillement, d'autant que, comme tu imagines bien, il n'y a pas d'augmentation de salaire, sauf pour les promotions en 2021.
Ouais, attends, c'est clair. Ok. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée, Bruno.
Bonne soirée, Laurent.
Merci. Pour l'instant, il n'y a plus de questions de la file d'attente. Je voudrais rappeler les participants une dernière fois que pour poser votre question, vous devrez appuyer sur étoile 1. Merci beaucoup. On a une autre question qui vient de la ligne de Monsieur Derek Marcon de Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Oui, Bruno, désolé de revenir. J'avais juste deux petits follow-up. Le premier, c'est, tu disais en introduction, la visibilité, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas à un niveau très élevé, mais est-ce que, en fait, quand même, par rapport à si tu te replaces par rapport à il y a 6 mois, est-ce que tu as plus de visibilité quand même sur les lancements de projets que vont faire tes clients? Est-ce que tu as plus de visibilité sur leur volume de dépenses en cours pour l'année 2021 ou ce qu'ils ont prévu pour l'année 2021? Et est-ce que dans ton scénario de S2, tu as pris la reprise de l'auto comme quelque chose de certain? Et est-ce que c'est ça qui te fait espérer ou garder un stock de chômage partiel hérité de la crise 2020? Et puis, la deuxième question, c'est sur ces 1500 personnes, est-ce qu'il y a quand même un profil qui se dégage? Est-ce que c'est vraiment des gens, finalement, qui sont pas réemployables en dehors des secteurs auto-aéro? Parce que c'est quand même de là que vient l'héritage de ces 1500. Mmh. Et si c'était le cas, vu le ton très prudent que tu as sur la reprise dans ces deux secteurs à court terme, c'est quand même un fardeau que tu vas... Alors, je comprends que tu vas en éliminer peut-être, les faire réduire 300 par trimestre, mais tu vois, 300 par trimestre, si on fait repartir à 1500, c'est un fardeau que tu vas traîner encore en 2022, quoi.
Alors, la visibilité, elle est... Quand je dis qu'elle est réduite, elle est vraiment réduite, parce que... on n'a pas de visibilité sur les budgets de nos clients pour l'année 2021. Déjà, habituellement, eux-mêmes n'en ont pas avant février ou même mars. Et là, quand les gens qui gèrent les comptes discutent avec leurs interlocuteurs, eux-mêmes n'en ont pas parce qu'en fait, les budgets sont débloqués au compte-gouttes. Ça, c'est vrai dans la plupart des industries aujourd'hui. Donc, OS2, pour l'instant, on a pris des hypothèses de remontée de l'activité auto, mais encore, comme je vous l'ai indiqué, je n'ai pas validé le budget 21 et notamment le S2, parce que ce qui est assez intéressant, finalement, c'est de voir les perceptions de chaque patron opérationnel. Il y en a certains qui pensent que ça va forcément repartir très fort parce que les vaccins vont finir par résoudre le sujet. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus mesurés. Donc, il y a une forte, dans les chiffres qui me sont remontés, qui sont remontés à la direction, il y a un fort biais personnel, vous voyez, qui est lié au contexte et à la façon dont chacun réagit face au contexte. Moi, mon sentiment, c'est que ça repartira un peu au second semestre dans l'auto, mais qu'il ne faudra pas attendre un rebond très très important, en tout cas pas sur le second semestre, à moins vraiment que les choses s'arrangent de façon spectaculaire et que la crise sanitaire finisse par progressivement se dissoudre. On n'en prend pas le chemin pour l'instant, enfin en tout cas pas dans les 2-3 mois qui viennent. Il y a des sujets chez les constructeurs automobiles notamment, il y a des vrais sujets d'investissement lourds à mener, des projets dans le domaine des batteries. Il y a toujours beaucoup de projets dans le domaine de tout ce qui touche autour des véhicules électriques, donc ce qui est corollaire des sujets d'investissement dans les batteries. Après, il y a des projets, mais qui honnêtement sont plus prioritaires, qui tournent autour des véhicules autonomes. Avec un problème qu'ont les constructeurs, qui est que dans un véhicule électrique, le prix de la batterie représente un pourcentage très significatif du prix du véhicule et que donc ça repose un problème de chaîne de valeur. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'ils investissent tous, mais il y a aussi des investissements à mener sur des technos alternatives. Je vous en avais parlé déjà il y a 2 ans, je crois, du fait que le lithium-ion ne pouvait pas être la solution et ne le sera pas à long terme. Donc, sur des solutions qui tournent notamment autour de l'hydrogène, mais pas que. Bon, tout ça, ça fait des investissements importants à mener, mais ils n'ont pas le top line pour pouvoir les mener. Bon. Mais à un moment ou à un autre, quand même, il faudra bien le faire. Donc, ça fonctionnera quand le cercle vertueux de la remontée des volumes de vente va se mettre en place et ainsi de suite. Donc moi, mais ça c'est très personnel, je vois sur l'auto une remontée assez légère au S2, et ensuite, probablement en 2022, quand on commencera à sortir vraiment de la crise, une remontée plus forte. Bon. Pour les gens au chômage partiel, les 1500 personnes qui restent ne sont pas des gens qui sont non employables ou peu employables. Justement, si on les garde, alors les personnes qu'on a décidé de faire partir sur le nord de l'Allemagne, on a fait l'analyse évidemment de la grille de compétences et l'adéquation avec les besoins marché, donc on s'est dit que là ce serait très compliqué, donc on fait un petit plan sur l'Allemagne du Nord, pour le reste, c'est des compétences qui sont des compétences, je dirais, qu'on a eu du mal à recruter ces 2 dernières années. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont jeunes, c'est des gens qui sont bien formés, c'est des gens qui travaillent sur les sujets qui sont les sujets de l'industrie automobile et ou de l'aéronautique. Voilà. Donc, en Allemagne, clairement, les dirigeants allemands pensent que ça finira par repartir et eux, ils ont une vision beaucoup plus long terme. Peut-être parce qu'ils sont dans un pays où on voit les choses à plus long terme, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le gouvernement allemand a décidé de maintenir le chômage partiel dans des conditions quand même très favorables, au moins jusqu'à fin 2021, et on parle aujourd'hui de fin 2022, pour justement préserver les compétences dans les entreprises. Bon, l'Allemagne qui est quand même un vrai sujet hein, pour nous en termes de chômage partiel, parce que on a quand même plusieurs centaines de personnes à Hambourg et également la même chose sur l'Allemagne du Sud. En France, c'est circonscrit à Toulouse. Grosso modo, enfin, sans donner, on a un extra bench, si je puis parler comme ça, de l'ordre de 350 personnes sur Toulouse. Et sur Nantes, peut-être 150, et puis sur Sofia, un peu moins. ils sont en train de se réduire progressivement. Alors après, il faudra arbitrer, mais il faut être dans le bon timing, c'est-à-dire des fois c'est trop tard pour lancer des opérations lourdes qui sont coûteuses socialement, alors que plus le temps passe, plus on va quand même s'approcher du point d'inflexion et de redémarrage.
Mais ce que je comprends pas, Bruno, c'est que ces gens, ils sont stuck sur un vertical ou sur une géographie. C'est pas possible parce que, en fait, si tu regardes la demande
dans les petits
secteurs que auto et aéro, elle est plutôt en croissance. Donc, en fait, ton rythme de baisse de ce stock de chômage partiel, il devrait venir effectivement du natural churn, mais aussi du fait que tu replaces rapidement ces gens là où ça, le marché croit, non?
Oui, mais le marché. Oui, mais le marché ailleurs, il n'est pas suffisamment dynamique aujourd'hui pour pouvoir absorber les excès de ressources du secteur aéro et auto. C'est pas possible. Et c'est aujourd'hui, donc ça va se gérer progressivement dans le temps, mais c'est pas statique. C'est-à-dire que il y aura des démissions, il y aura des gens qui vont basculer, puis il y a des gens qui vont rester en chômage partiel. Il est probable qu'en Allemagne, on ait des gens qui fassent plus de 2 ans de chômage partiel. La question, c'est est-ce que à terme, et est-ce que le terme, c'est fin 2021, mi-2022, l'activité dans ces secteurs-là va repartir pour absorber ce qui va rester de gens en chômage partiel. C'est un pari. Après, on changera peut-être d'avis au cours de l'année 2021 au vu de ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de raison, alors qu'on a des gens qui sont compétents, qu'on sait que l'industrie automobile finira par repartir et qu'ils ont ils vont avoir de gros besoins, il n'y a pas de raison de faire partir des gens, alors même que le coût résiduel est de l'ordre de 15 à 20%. Si on raisonne en termes de gestion RH prévisionnelle. Donc ta question sur le fait qu'ils soient réemployables ou pas, c'est pertinent, parce qu'effectivement, si c'est des gens pas réemployables, ça sert à rien de garder des gens comme ça, parce qu'on sait que d'une façon ou d'une autre, même si le marché repart, ils resteront en intercontrat. Donc ceux-là, on a pris la décision d'arrêter, mais les autres non pour l'instant.
Ouais, ce que je voyais, c'est vrai que quand tu vois, tu fais la liste de tous tes secteurs, t'as quand même l'impression qu'il y en a deux qui vont très mal et que les autres, mais effectivement, peut-être qu'en trois, il faudrait, soit ça croit pas assez, oui. Soit c'est pas assez gros pour absorber effectivement ce que t'as perdu d'un côté.
Ah non, mais ça c'est sûr. C'est les deux plus gros secteurs.
Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je comprends. C'est pour ce que tu dis. Parfait. Merci, Bruno.
Je t'en prie, Derek. Bonne soirée.
Merci. Il n'y a plus de questions de la file d'attente. Je vais donc redonner la parole à M. Benouliel pour conclure la conférence d'aujourd'hui. Merci.
Bon, écoutez, merci à tous d'avoir participé à la conférence d'Alten. Merci pour vos questions. Nous nous retrouvons donc le 24 février, puisque c'est la date à laquelle nous allons publier les résultats de l'année 2020. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher. Les organisateurs de la conférence, s'il vous plaît, restez connectés.